Mais tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, une révolution douce, l'économie sociale et solidaire. Au départ de cette série, il y a des oxymores. Business vertueux, économie humaine, entrepreneuriat social. Alors cette semaine, on explore le paradoxe pour faire un état des lieux de ces entreprises qui inventent un îlot de solidarité dans l'océan du capital. Mais un îlot rentable, quand même. Pour commencer, les personnages. Des chefs d'entreprise idéalistes, des particuliers militants, des étudiants utopistes, des jeunes motivés et des associatifs de toutes sortes. Tout un monde qui se targue de réinventer le travail. Ensuite, le décor. Une usine écolo en Bretagne, qui est aussi une coopérative et propose de l'énergie renouvelable. Un futur supermarché collaboratif, parisien, encore un peu vide. Et une école à Montreuil qui forme les chômeurs et les non-diplômés. On est en France, entre la ville et la campagne. Aujourd'hui, deuxième épisode, Power to the People, l'entrepreneuriat social. Un documentaire de Patrick Boudet réalisé par Guillaume Baldi. On est allé écouter ceux qui inventent ces entreprises solidaires, responsables et collectives et qui espèrent bien qu'il y en aura pour tout le monde.
L'entrepreneuriat social, power to the people. Patrick Boudet et Guillaume Baldi.
Il faut que ça vienne des deux côtés, il faut que les deux... Ah. Alors, pour en fait, avec Mailvelope, toi, tu vas envoyer ta clé publique. La clé publique, elle va servir à chiffrer. Donc la personne qui va t'envoyer un message a besoin de ta clé publique pour le chiffrer. Toi, quand tu vas le recevoir, Mailvelope et GNUPG va être utilisé pour déchiffrer. Mais après, pour que toi, tu lui renvoies un mail chiffré, tu as besoin de sa clé publique.
D'accord.
Alors là, je comprends pas. Est-ce que le message... vous vous êtes échangé...
Ouais.
Le message que tu as envoyé, tu as bien mis... T'as bien utilisé sa clé publique quand t'as...
Bah, je vais recommencer.
Ouais.
Bonjour, vous êtes connu sur un peu comment ?
Bonjour, en cherchant des écoles numériques.
Vous faisiez quoi avant ?
J'étais en sociologie à la fac.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans le code ?
Qu'est-ce qui m'a plu dans le code ? Je sais pas, c'est un métier où il faut être très curieux, il faut aller chercher plus loin à chaque fois, il faut essayer d'optimiser toujours ce qu'on fait. Donc voilà, c'est très... Il y a beaucoup de challenges.
Vous êtes entré à Saint-Plô avec une perspective professionnelle ?
Oui, pour faire de la gestion de projets numériques. Mais là, sinon, la plupart des gens sont rentrés pour devenir développeur web. Ce à quoi forme Saint-Plô.
Encore soutenue par l'argent public, l'économie sociale et solidaire doit néanmoins aller sur le marché chercher les moyens de son développement et assurer sa pérennité. Ce changement de comportement a modifié ses perspectives en l'amenant à investir de nouveaux territoires économiques réservés jusqu'alors aux entreprises de l'économie de marché. Sans pour autant rompre avec ses missions traditionnelles, l'économie sociale et solidaire a su renouveler ses propositions et son attractivité. Bonjour Frédéric Bardot.
Bonjour.
Nous sommes à l'extérieur de Saint-Plon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est exactement Saint-Plon ?
Ce qui se passe derrière les murs là-bas,
ouais.
C'est un endroit un peu particulier, c'est à la fois le siège social de l'entreprise sociale Saint-Plon, donc c'est de là que se dirige entre guillemets le réseau des 30 écoles Saint-Plon qui sont en France et à l'étranger, c'est aussi le centre de formation des formateurs qui sont dans les autres écoles Saint-Plon, et c'est une école où il y a en ce moment deux formations en même temps, donc une qui est ouverte aux décrocheurs et jeunes chômeurs d'Île-de-France, plutôt de la Seine-Saint-Denis, et une autre, donc la promo 5, ouverte aux réfugiés statutaires.
Qu'est-ce qu'on enseigne à Saint-Plon ?
Alors, à Saint-Plon, on apprend gratuitement, de 6 à 9 mois, ça dure 6 à 9 mois, des métiers et des compétences qui sont très recherchées en ce moment et qui tournent autour du web et du mobile. Donc on apprend à faire des sites web et à créer des applications mobiles. Et ça, c'est des choses... On manque de 50 000 développeurs par an en France et ça va pas s'arrêter avant longtemps. Alors qui paye ? Donc c'est Pôle emploi, l'argent de la formation professionnelle qui est collecté par des OPCA et les régions aussi qui sont compétentes en formation professionnelle. Et aussi il y a des entreprises qui payent et aussi il y a des subventions. Parce que comme on s'adresse à des gens qui sont soit en décrochage, soit dans des quartiers prioritaires ou quartiers populaires, moi je préfère dire, bah il y a des subventions qui permettent de faire ça à destination de ces publics-là, quoi. Donc c'est un mix entre de l'argent de la formation, de l'argent des entreprises, parce qu'elles ont envie de recruter ces profils, et des subventions publiques.
Combien vous formez de personnes par an ?
Alors c'est des cohortes, enfin des groupes de 25 tous les 6 mois, Et comme on a une vingtaine d'écoles et qu'on en aura bientôt 40, voilà, ça fait en gros... on a mis 3 ans pour former 300 personnes et maintenant on en forme 300 tous les 6 mois. Donc 600 par an à peu près. Les taux de l'insertion, souvent, c'est 50-60%. Donc là, ouais. Donc après, c'est des sorties positives. C'est pas des CDI. Hein. Donc il y en a qui sont auto-entrepreneurs, il y en a qui montent des boîtes, il y en a qui rattrapent des formations diplômantes. Mais 50%, c'est des contrats de travail. CDD, CDI, contrats de pro. Mais il y a beaucoup de boulot dans le numérique. Et en fait, les jeunes, on leur propose des métiers en tension, dans la restauration, dans les espaces verts, les machins. Mais il y en a aussi dans le numérique. Mais il n'y a pas besoin d'être un ingénieur ou un bac plus 5, quoi.
Bah, j'aimerais bien devenir développeur full stack si j'y arrive, ou sinon peut-être travailler dans le design en passant ensuite par une école de design.
Et qu'est-ce que vous pensez des méthodes Simplon ?
C'est intense, ouais, c'est très intense, mais c'est vachement agréable parce qu'en fait on travaille tous ensemble, on ne travaille pas chacun de notre côté. On n'a pas vraiment de cours ou de. Enfin, on nous donne pas de cours, c'est pas didactique, c'est plutôt dans la dialectique. Et c'est ce qui me plaît justement, de pouvoir échanger avec mes camarades, de rencontrer tous ensemble un problème et de pouvoir le surmonter ensemble. Enfin, on y arrive beaucoup mieux que lorsqu'on se retrouve seul, en fait. Donc c'est les méthodes Simplon et c'est pour ça que j'ai trouvé merveilleuse.
Sur les publics, par exemple, si on voulait être mieux pris en charge par Pôle emploi ou avoir un meilleur taux d'insertion, il faudrait qu'on prenne des diplômés chômeurs. Et nous, on a quand même 60% de gens qui sont bac ou infra-bac. Et ça, c'est parce qu'on le veut. C'est pas parce qu'on ne trouve pas de diplômés. C'est parce qu'on se fait de la discrimination positive sur les décrocheurs. Mais ça se passerait beaucoup mieux. On aurait beaucoup plus de profits ou de prise en charge si on était sur les publics plus faciles, en fait.
Vous pensez que l'économie sociale et solidaire est surtout une économie avant tout réparatrice ?
Nous, c'est pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on considère pas qu'on répare, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre aussi de faire des contrats à impact social, parce que si on réparait, peut-être qu'il n'y aurait pas des investisseurs qui parieraient sur la rentabilité de la réparation. Non, je sais pas, on a l'impression de créer de la valeur sociale. Nous, on n'a pas l'impression de réparer. On répare des chemins de vie, mais c'est les gens qui se réparent en faisant du Simplon, quoi. C'est pas nous qui les réparons, quoi. Enfin, on n'a pas ce regard-là, mais je vois ce que vous voulez dire, mais... Peut-être qu'il y a longtemps, l'économie sociale et solidaire, ça a peut-être été ça, ouais. De la réparation. Mais il faut réparer aussi, hein. On ne peut pas que construire. Il y a des gens avec qui on ne peut pas construire. Il faut bien s'en occuper ou les prendre en charge.
Comment vous pourriez vous définir comme de l'innovation sociale ?
C'est ce qu'on dit, ouais.
De l'entrepreneuriat social, du business social ?
C'est ce qu'on dit, ouais. Il y a un flou, en fait, sur ce qu'il y a derrière les mots, quoi. Puis en plus, il y a des idéologies, il y a des choses comme ça, donc... Innovation sociale, oui, parce que on utilise des choses innovantes pour essayer d'avoir un impact social. Entrepreneuriat, ça se définit par nos statuts. On a une entreprise. Social business ou business social, la finalité étant pas le business. C'est vrai qu'on aura du mal, celle-là, on l'accepte un peu moins mais on n'est pas une entreprise d'insertion. On n'est pas une ONG. Ça, c'est sûr.
La première école Simplon s'est ouverte en quelle année?
Alors, c'est octobre 2013. C'était ici, ouais, dans la première partie du local.
Aujourd'hui, on est en 2016, il y en a 20 d'ouvertes. Vous en ouvrez à quel rythme des écoles ?
On a mis 3 ans à en avoir 20, et maintenant, dans 6 mois, on en aura le double. Donc il y a un truc un peu exponentiel, en fait. Les territoires, ils aiment bien ce concept-là, parce que c'est gratuit pour les gens, ça donne de l'emploi, et il y a un modèle économique qui permet de faire en sorte que c'est pas eux qui payent tout. Donc ça marche bien.
Ouais. Quel est le statut juridique de Simplon ?
Alors c'est une SAS, donc c'est une entreprise, mais qui dispose de l'agrément ESUS, donc l'agrément de la loi de 2014, qui effectivement sanctionne le fait que dans nos statuts, on a pris des engagements assez forts qui nous mettent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Mais juridiquement, on est une entreprise.
Et les bénéfices que vous faites, ils sont redistribués, ils servent à construire d'autres projets d'école ?
Alors pour l'instant, on est loin d'en faire, parce que les deux premiers exercices, on a fait des pertes assez énormes. Là, le troisième exercice, on va être à zéro. Et dans nos statuts, effectivement, il y a marqué que l'ensemble des bénéfices et des résultats sont affectés à l'entreprise et à la mission sociale. Nous, on distribue pas de dividendes, même si un jour on fait des résultats. Nos actionnaires le savent, ils auront jamais de dividendes. Donc on réinjecte tout dans la mission sociale et dans le projet. Et donc effectivement, voilà, on est toujours l'esclave de quelqu'un. Hein. Une entreprise, elle est esclave de ses clients, une association de ses donateurs ou des gens qui subventionnent. Le sens de l'histoire, c'est pas les subventions. Les dons, ça oblige à être un peu dans le marketing du donateur aussi. Et alors que l'entreprise, effectivement, le fait de vendre des produits ou de trouver un modèle économique, ça vous oblige à être dans la pérennité. C'est assez sain, en fait, comme démarche. C'est pas... quand on a des subventions, on fait des trucs. Quand il n'y en a plus, on arrête. Ça s'inscrit dans la durée, quoi.
Vous avez souscrit à des contrats d'impact social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi vous l'avez fait ?
Alors pourquoi on s'intéresse au contrat d'impact social ? Parce que c'est un moyen, là encore, de ne pas dépendre uniquement des financements publics, mais de faire payer un risque et une action à un investisseur et de pouvoir mener l'action et ensuite que l'investisseur soit remboursé par la puissance publique. Donc c'est une manière, en fait, de ne pas attendre la subvention et de ne pas être... Parce que les subventions, si elles sont payées un peu en retard et en décalage, ça met parfois en difficulté les organisations. Là, l'idée, c'est de dire, on a une action qui a de l'impact. Au lieu de nous croire sur parole, en fait, on fait porter le risque par un privé. Et après, si on a les bons résultats, en fait, vous remboursez celui qui a pris le risque. C'est un peu la mécanique. Donc ça revisite le partenariat public-privé. Voilà. C'est une modalité hybride de financement, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment... il y aurait un moyen de... On a essayé le crowdfunding aussi. On a essayé les financements européens. Et en fait, tous ces financements-là, ils ont un inconvénient et un avantage. Les financements européens, on est payé 24 mois après avoir fait l'action. Donc celui-là, voilà. Le crowdfunding, c'est bien, mais vous pouvez pas faire du crowdfunding tous les 4 matins. Hein, parce qu'une fois que vous avez siphonné vos parents, vos proches, que vous avez spammé tout le monde, plus personne ne va vous donner. Et là, bon, c'est un moyen à la fois de donner ce que veut un investisseur, c'est-à-dire un résultat et un intérêt, et en même temps d'obtenir un impact sur une politique publique.
Thierry Sibieude, professeur à l'ESSEC.
L'économie sociale est une source d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui va construire une entreprise pour apporter une solution à un problème qu'il a identifié sur un territoire donné. Et ce problème qu'il a identifié sur un territoire donné, il existe le plus souvent sur d'autres territoires. Et un des grands enjeux, c'est de faire en sorte que quelque chose qui a marché sur un territoire donné puisse être démultiplié et puisse répondre à un besoin sur une échelle beaucoup plus large. Et c'est ce qu'on va appeler le changement d'échelle. Et là, l'économie sociale devient un vecteur d'innovation, un vecteur de changement du système. Et pour reprendre une expression à la mode, des organisations qui font bouger les lignes et qui font que l'ensemble des acteurs vont progresser.
C'est important que les initiatives se posent la question de leur projet.
Jean-Louis Laville, professeur au CNAM.
Et ensuite, d'essayer d'agencer les moyens pour que ce projet soit réalisable, sans exclusive aucune. C'est-à-dire que je pense que le mot-clé dans l'équilibre économique des initiatives citoyennes de l'économie solidaire, par exemple, c'est le mot « hybridation des ressources ». C'est-à-dire que vous avez besoin, quand c'est possible, de financer, je continue sur mon exemple d'aide à domicile, par exemple, de financer une partie des services par ce que payent les clients. Mais si vous voulez que votre service soit accessible à tous, il faut que ces clients non solvables puissent y avoir accès grâce à des aides publiques. Donc vous avez un premier mixte entre des ressources marchandes et des ressources publiques. Sinon, vous ne faites votre service que pour les plus riches. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que dans un certain nombre de cas, et on l'a vu dans bien des exemples, il y a une dynamique bénévole aussi qui peut à la fois donner du lien social, donner du sens aux activités menées et permettre de ne pas être complètement dépendant des ressources marchandes et des ressources publiques. Et donc c'est autour de ce mixte entre de la réciprocité fondée sur des échanges, du lien social entre des gens, des ressources marchandes et des ressources publiques, que je crois peuvent se trouver de nouvelles formes associatives, et pas forcément du côté d'un simple glissement du public au marché. Parce que de toute façon, là aussi, il n'y a pas de miracle. Si on n'a pas d'aide publique, de toute façon, on ne fera des services que pour les 20% les plus aisés. Et ça, on le voit dans l'aide à domicile, puisque le secteur privé lucratif s'est implanté dans l'aide à domicile, mais il est implanté massivement dans les grandes concentrations urbaines, et il ne s'occupe absolument pas de donner des services, par exemple, à des gens qui habitent en moyenne montagne ou dans des régions dans lesquelles la densité de population est beaucoup moindre. Et donc, le risque, si vous voulez, ça serait que l'économie sociale et solidaire s'occupe des pauvres, et que le secteur privé lucratif s'occupe des segments rentables de clientèle. Et ça, c'est la partition qui peut être vraiment un danger. Hein. Et à ce moment-là, on considérera que l'économie sociale et solidaire est une économie de seconde zone pour les pauvres et que l'économie normale, ça reste le capitalisme marchand. Le projet de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas celui-là. C'est de devenir une économie de plein droit, une économie légitime qui a toute sa place dans une économie plurielle.
Je m'appelle Emmanuel Soulias et je suis le directeur général de la coopérative Enercop. Alors Enercop, il y a plusieurs façons d'écrire Enercop. On va commencer par son métier. Aujourd'hui, Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Donc c'est un fournisseur d'électricité au même titre que EDF, Engie, Direct Energy, Lampiris, Planète Oui. Depuis 10 ans à peu près, le marché a été dérégulé en France et donc on n'est plus en situation de monopole public. Donc il y a plusieurs acteurs qui aujourd'hui proposent aux particuliers et aux entreprises de l'électricité, et Enercop est l'un de ces fournisseurs. Et les spécificités d'Enercop, il y en a 3. La première, c'est qu'Enercop ne fournit que de l'électricité d'origine renouvelable. Donc pas de nucléaire, pas de gaz, pas d'énergie fossile, mais de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire et de la biomasse. La deuxième spécificité d'Enercop, c'est donc que c'est une coopérative. Donc le choix du statut d'Enercop, c'est de dire que les clients sont des sociétaires, que le profit est impartageable et que les sociétaires donc participent à la gouvernance et aux choix stratégiques d'Enercop. Et puis le troisième point un peu structurant d'Enercop, c'est que c'est une structure décentralisée. Et c'est aussi important dans le choix d'Enercop d'avoir créé une structure qui prend le contre-pied d'un système en France énergétique qui est très centralisé. Et donc aujourd'hui, Enercop, c'est un réseau de coopératives, un réseau de 10 coopératives aujourd'hui, bientôt plus, qui vise à mettre le producteur d'électricité et le consommateur d'électricité au plus proche dans les territoires.
Alors Nicolas Debray, je suis le directeur d'Enercop Bretagne. Et donc en tant que coopérative locale d'Enercop, on a participé au développement du projet photovoltaïque sur le toit de la plateforme logistique Grand Ouest. On est donc à Melesse, à quelques kilomètres au nord de Rennes, là où se trouve la plateforme logistique qui dessert tous les magasins Biocoop du Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Donc d'ici partent beaucoup de camions tous les jours et on a beaucoup de entrepôts frigorifiques. Et c'est donc un site industriel. Au moment de l'agrandissement du site, l'agrandissement fait 4000 m² et donc il a été décidé, réfléchi de profiter des travaux pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur le site. Et donc c'est comme ça qu'a démarré la réflexion entre Biocoop et Enercop, parce que Biocoop fait partie des fondateurs d'Enercop et a souhaité s'associer à Enercop pour travailler et définir le projet de production photovoltaïque. Donc on est à quelques mètres du site, on va monter, on va emprunter l'échelle à crinoline. C'est parti.
Je suis Monsieur Bélis de Biocoop. Je suis responsable maintenance sur le site.
Alors là, ce qu'on entend, c'est le groupe froid. Donc c'est parmi les plus fortes consommations du site, c'est la production du froid, vu qu'on est sur un entrepôt logistique qui gère beaucoup de zones froides, y compris des parties congelées, quoi. C'est tellement froid que les tuyaux sont complètement congelés à l'extérieur. Il paraît que c'est normal. Là, on est vraiment sur l'autoconsommation. Alors, on est en direct. Les panneaux sont à 5 mètres là-haut, 10 mètres là-haut. Et le groupe froid, il est en dessous. Et vu que c'est de l'électricité qui ne va pas sur le réseau, qui est consommée localement, là, oui, on a vraiment un lien direct entre le PV et puis la consommation d'électricité, quoi. On est vraiment dans ce schéma-là pour Enercop. Donc, on a l'outil fournisseur. Mais on s'intéresse bien à aider aussi nos sociétaires, nos clients à diminuer leur consommation et à essayer de voir aussi comment les aider à mettre en place des projets de production. Donc là on est devant les 2000 m² de panneaux solaires. Donc le site, enfin la toiture totale brute, ça fait pas loin de 4000 m², donc il n'y en a pas sur toute la surface. La partie qui est produite est autoconsommée à quasiment 100% et la partie qui est consommée est autoproduite à 15%. C'est-à-dire que c'est un site industriel qui consomme beaucoup, et donc là il y a 15% de la consommation qui vient du site. 15 à 20%. On n'est pas encore sur un recul, on en saura un peu plus là d'ici la fin de l'année, où on aura une année complète de consommation de production pour faire le lien, quoi. Tous les industriels s'intéressent à, dans leur démarche environnementale, savoir comment réduire leur impact. Et c'est en ça que c'est un problème emblématique, puisque Biocoop dans sa philosophie a vraiment ça on va dire un peu au-dessus de la moyenne. Donc c'est un peu normal qu'on retrouve Biocop sur des pionniers sur ce type de projet. On sent bien, alors il y a deux volontés fortes que peuvent avoir les industriels. La première, c'est la démarche environnementale. Mais demain, il y aura aussi un souhait de pouvoir maîtriser sa facture d'électricité et son approvisionnement. Là, sur un projet comme celui-là, Biocop a une facture connue pendant 30 ans. À partir du moment où l'électricité est produite localement, elle n'est pas vue du réseau, on ne lui applique pas toutes les taxes comme les autres moyens de production. Et du coup, ça vraiment, c'est ce qu'on appelle la parité réseau. Quand le coût de production installé localement coûte moins cher que ce qu'on achète du réseau, ça vaut le coup d'en installer, d'investir sur la durée, quoi.
Alors bonjour, moi je suis Monsieur Bélis, donc je travaille chez Biocop depuis 18 ans environ. Donc nous sommes une plateforme logistique. Nous sommes donc sur un bâtiment qui a été construit là en 2014, fin 2014, équipé donc de panneaux photovoltaïques. Alors pour faire simple et clair au niveau maintenance, il n'y a pas de maintenance à faire, ça fonctionne tout seul, aucun problème. La seule maintenance qu'on ait eu à faire dessus là depuis la pause, c'est simplement un nettoyage de ces panneaux réalisé par une entreprise sous-traitante. Donc ils sont venus avec un robot qui a travaillé tout simplement tout seul de façon très simple, posé dessus, radiocommandé, et puis il nettoyait les panneaux photovoltaïques. Ça s'est fait sur une journée. Autrement, c'est tout. Vraiment, si sur le site tout pouvait être comme ça, ce serait formidable. Sincèrement, honnêtement, c'est vrai. Donc si vous le souhaitez, je vous invite à redescendre avec moi et nous allons voir les chambres frigorifiques.
Les valeurs d'Enercop, c'est d'abord de développer les énergies renouvelables, ça c'est fondamental. Donc c'est un sujet bien évidemment de société. Mais aujourd'hui, développer les énergies renouvelables, c'est pouvoir assurer que ces énergies renouvelables répondent à un vrai besoin. Et donc le rôle d'Enercop, c'est bien de mettre la production en face de la consommation et d'avoir l'adéquation la plus forte. En gros, plus Enercop a de clients, plus on est en mesure de développer des énergies renouvelables en achetant des productions ou en aidant au développement de nouvelles productions. Première valeur ou objectif, c'est développer les énergies renouvelables. Deuxième valeur, c'est de mettre le citoyen au cœur de cette question énergétique et spécifiquement de la transition énergétique. Et ça, c'est un élément important parce que la question énergétique, comme la plupart des grands sujets industriels, elle n'est pas forcément ouverte au grand public, elle est détenue par des grands ensembles plutôt financiers. Et donc mettre le citoyen au cœur du projet pour nous, c'est très important. Et ça rejoint le choix de la coopérative, c'est-à-dire que on ne rend pas compte à des actionnaires, on ne rémunère pas un capital où qu'il soit, mais on est bien au service des sociétaires et on met en œuvre leur projet. Donc c'est vraiment un projet de transformation de société, c'est-à-dire qu'au travers de la question de l'énergie, on pose les questions de... que fait mon fournisseur de l'argent que je lui donne? Et ça, c'est très important aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire qu'un sociétaire ou un client Enercop qui paye 1 euro à Enercop, il sait exactement comment redistribuer son euro.
C'est la notion du prix juste qui a été mise en avant dès le départ du projet d'Enercop, en se disant, on va faire de la fourniture d'électricité d'énergie renouvelable. Mais le client va payer un petit peu plus cher parce qu'il sait qu'il finance du renouvelable et il va accepter de... Donc au départ, l'écart, il était même de 40 ou 50% vis-à-vis du prix d'EDF. Et aujourd'hui, le prix d'Enercop, au-delà de peut-être la TVA qui a bougé ou la partie des quelques taxes qui ont bougé, la partie Enercop n'a pas bougé. Et donc aujourd'hui, après 10 ans, on est à un écart de autour de 15%. Souvent, donc on parle en pourcentage, on peut parler aussi en écart chaque mois. Et pour un foyer donc hors chauffage électrique, on est autour de 5 euros de différence avec les tarifs donc régulés d'EDF.
On va rester du côté quai, là, sur le zébra vert, de façon à ne pas gêner les opérateurs. Donc ici, nous sommes sur le quai départ de la plateforme, c'est-à-dire que toutes les commandes, tous les produits qui partent vers les magasins du réseau Biocop partent d'ici. Aussi bien les commandes d'épicerie, fruits et légumes, ultra frais. Tout est regroupé sur ce quai et tout part via les camions qui se mettent à quai tout au long de la journée. Nous sommes effectivement dans la zone réfrigérée qui est fournie en électricité par les panneaux qui sont juste au-dessus de nos têtes, à environ 7 mètres, où il fait environ actuellement la 3 degrés. Donc c'est des produits très sensibles, les viandes hachées, etc.
le constat, quand on parle d'Enercop, on sent que sur le projet d'Enercop, la partie production intéresse beaucoup. Nous, dans notre coopérative locale, chaque assemblée générale, quand on demande aux sociétaires quelles sont les priorités, vers quel axe on doit aller, systématiquement la production est l'axe fort. On est aussi dans la mise en place d'un moyen de production sur l'idée d'un circuit court où les financeurs sont des financeurs locaux. Et donc l'argent ne va pas à l'Arabie Saoudite ou à un fonds de pension américain. Non, c'est quand on fait un projet de production qui vend son électricité, qui est un projet industriel, il y a bien dans cette idée que ça va aussi servir au développement local, quoi. Et c'est aussi quand le consommateur paye sa facture, il sait qu'est-ce qu'il finance. Il finance du renouvelable et il finance des nouveaux moyens de production qui sont dans une forme de projet collectif, quoi.
Vous avez combien de consommateurs aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a 35 000 clients, ce qui est très peu, hein. En gros, en France, il y a à peu près 35 millions de consommateurs d'électricité, entreprises et citoyens inclus. Donc c'est très peu. On a un objectif d'avoir 150 000 clients à horizon 2020. Donc pour nous, c'est significatif parce que c'est ce qu'on appelle un changement d'échelle. Il faut mettre en place des nouveaux process et se structurer, s'organiser pour ça. Mais même cet objectif de 150 000, il est relativement modeste parce que c'est 0,5% de part de marché. Demain, et on est déjà en train d'y réfléchir, on pense qu'on peut être encore plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on pense plus que 0,5% des Français qui sont intéressés à acheter une électricité produite localement à base d'électricité renouvelable et fonctionnement en mode coopératif. Et plus on a de demandes, et c'est le côté vertueux du coup du projet qu'on porte, hein, plus on a de demandes d'électricité renouvelable, plus on va devoir en développer en amont, donc souscrire auprès des producteurs ou développer des projets de production qui vont permettre de répondre à ce besoin, à cette attente. Alors comment s'est construit financièrement Enercop ? À l'origine, avec 20 000 euros, donc c'est très peu, capital de départ. En fait, il y a deux leviers hein, qui, et à la création et encore maintenant, permettent d'expliquer le développement d'Enercop. C'est d'abord la contribution des sociétaires. Donc, je l'ai évoqué, un sociétaire Enercop peut prendre une ou plusieurs parts au capital qui est aujourd'hui de 100 euros. Et de facto, c'est une force d'Enercop. Le capital aujourd'hui d'Enercop, c'est 6 millions d'euros. Le capital cumulé des 10 coopératives Enercop, c'est 9,5 millions. Et c'est aujourd'hui exclusivement l'argent des sociétaires d'Enercop. Et ça, c'est une force qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'asseoir un capital sur la base duquel on déroule toute notre activité. Et puis, quand on a créé des coopératives locales, et aujourd'hui, dans le cadre d'un changement d'échelle où on cherche des financements complémentaires, eh bien, on s'est appuyé sur des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous sont proches. Donc, j'ai évoqué la NEF, hein, qui, depuis le début, accompagne Enercop, mais aussi le réseau France Active, Garrigue, le Crédit Coopératif, donc des acteurs banquiers ou des acteurs investisseurs qui sont habitués à soutenir l'émergence de structures de l'économie sociale et qui ponctuellement peuvent soit nous soutenir sur la base de subventions. J'ai oublié quelques fondations aussi, hein. Je peux citer la Fondation Massif qui a aussi été très impliquée dans l'essaimage des coopératives locales. Donc ils peuvent soit par le biais des subventions, soit par le biais de prêts, de dettes avec des tarifs à négocier, peuvent aider ponctuellement certaines phases du développement du projet.
Vous avez choisi le statut coopératif. Pour quelles raisons vous avez choisi ce statut particulier ?
Alors pour deux raisons hein, qui sont liées vraiment au projet Enercop. La première, c'est que la question de l'appropriation du profit, elle est vraiment quand même au cœur de toutes les réflexions qu'on peut avoir sur la transition au sens large. Donc en matière de transition énergétique, cette question de qu'est-ce qu'on fait du profit, elle est vraiment fondamentale. Et donc le statut coopératif permet de manière claire et sans ambiguïté hein, de dire que les parties prenantes à la gouvernance et au projet sont des sociétaires, ce ne sont pas des actionnaires. Donc ils peuvent être rémunérés le jour où le capital évolue favorablement. En revanche, c'est pas l'objet premier de rémunérer un capital et c'est pas l'objet premier de rémunérer des sociétaires. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la coopérative, elle permet une implication des coopérateurs, des sociétaires en l'occurrence, dans la gouvernance de l'entreprise et dans la fixation de sa stratégie et le suivi de sa stratégie. La loi sur l'économie sociale et solidaire a sanctuarisé quelque part l'entrepreneuriat social. La question de l'impact social, elle est très importante. Alors ça occupe beaucoup de gens, ça occupe beaucoup d'universités, et ça commence à occuper pas mal de financiers aussi, hein, qui veulent justement pouvoir prendre des décisions d'investissement au regard d'un retour sur investissement financier, mais aussi social. Et je pense que l'économie sociale et solidaire, elle a son rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que elle doit pouvoir dire que créer de l'impact social, c'est pas quelque chose de nouveau qui met à bas tout ce que l'économie sociale a fait jusqu'à présent, que c'est pas inconciliable avec la question des statuts, et que ça permet aussi de dire que l'économie sociale et solidaire, en gros, c'est pas l'assaut de quartier un peu ringarde ou les vieilles mutuelles, elles aussi un peu ringardes. Voilà, y a cet enjeu-là aussi, hein, derrière l'évolution de l'économie sociale, c'est d'avoir une lecture un peu plus glamour et sexy de ce que c'est que l'économie sociale. Voilà.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui s'est développé de manière spectaculaire depuis 30 ans, dans tout le monde, ce n'est pas le social business, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certaines présentations trop partielles, c'est les initiatives de la société civile. Et donc je crois que ça, c'est un véritable phénomène de fond, c'est que dans tous les continents, il y a une émergence des initiatives de la société civile inédite, comme on n'avait pas connu depuis justement le début du 19e siècle. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bien que derrière l'économie sociale et solidaire, il y a la volonté de reconnaître la dimension économique de la société civile et de considérer que finalement, la création de richesse, ce n'est pas uniquement le capitalisme marchand, c'est aussi aujourd'hui tout un ensemble de pratiques qui viennent de l'initiative citoyenne, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans le social, que ce soit dans le culturel. Et finalement, si on veut résumer de manière un peu abrupte le débat, c'est est-ce qu'on va vers un monde de plus en plus uniformisé? C'est ce que propose le néolibéralisme enjolivé avec le social business. Ou est-ce qu'on veut aller vers un monde dans lequel on fera droit à la différence, à l'égalité et à la diversité? Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Soit on considère qu'il y a un capitalisme à but social avec un modèle unique, on fait de l'économie tous pareil, et puis si on remplit pas ces critères d'efficacité et d'efficience, on disparaît. Ou est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'économie, et en France ou en Équateur, ça ne sera pas forcément la même façon, parce que c'est ancré dans des sociétés qui sont différentes, c'est ancré dans des cultures qui veulent préserver leur diversité.
Les années que l'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue, il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés. Des puces électroniques surveillaient sans mal les murailles de lingots dressées dans la cale, poussées par le vent des marchés. La coque passait entre des récifs de chiffres carrés.
La vitalité et le développement de l'économie sociale et solidaire reposent principalement sur des initiatives citoyennes. Être l'acteur de son changement rend alors possible la réappropriation de ses modes de consommation.
et ensuite tu appuies dessus.
Je valide à nouveau. Ouais.
La Louve, supermarché collaboratif, niché dans le 18e arrondissement.
C'est mieux, hein, on les garde pas les cartes. Hein.
Et maintenant tu valides.
L'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue. Il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés, là où il mouillait. Dans les golfs sûrs, dans le calme des baies, les doigts sur le clavier, à l'abri des regards indiscrets. L'équipage, il a fait chicler la monnaie.
J'irai ici.
Bonjour, deuxième test alors.
Alors, oui. Donc vous payez par
Par chèque, par non, par carte bleue. J'ai plus de 20 euros.
Carte bleue, d'accord. Ça, oui. Ah, c'est-à-dire, on va laisser la dame.
Non, mais regarde, je vais faire comme ça, ça c'est le tien.
Ça fait longtemps que vous êtes membre.
Un peu plus d'un an.
Un peu plus
15
d'un
mois.
An.
15 mois.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept?
Le concept, acheter des produits de qualité en compensation 3 heures de travail par mois.
C'est principalement le système participatif et le fait de faire aussi des économies sur le bio, naturellement.
L'intérêt pour la production locale et une production qui sorte des circuits de l'agroalimentaire. Voilà, parce que je boycotte l'agroalimentaire.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est agréable, c'est qu'on rencontre des personnes, de nouvelles personnes tous les jours. Bon, après, ici ça reste la coopérative, c'est éphémère, mais à l'avenir on aura la possibilité de passer plus de temps à échanger par le simple fait qu'on va être... tous amenés à travailler dans la coopérative. J'habite le 11e, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans le quartier du 11e, donc voilà, je suis prêt à me déplacer pour pouvoir trouver ça. Et puis, l'idée aussi de s'investir dans une association, de se sentir plus investi que quand on va dans une petite supérette. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, ce côté-là, oui. Voilà.
Alors, en fait, je viens du Pays Basque, et quand j'ai habité au Pays Basque, je faisais vraiment attention à participer à l'agriculture paysanne et à faire participer tous les maraîchers qu'il y avait autour de chez moi. Et en 2003, j'étais même au Larzac en tant que bénévole pour soutenir l'agriculture paysanne. Donc ça me paraissait primordial de participer à cette aventure à Paris. On a vraiment énormément de chance que ça puisse se passer dans ces conditions. Mais d'après ce que j'ai compris, le but est de pouvoir faire tourner les personnes à différents postes. Je sais qu'on va être formé pour s'occuper des fromages, de la charcuterie, du conditionnement des fruits et légumes. Comme on va pouvoir être amené à être à la caisse, évidemment, ou s'occuper de stocker les bouteilles, les cartons... D'après ce que j'ai compris, on va beaucoup tourner. Donc, et ce qui est chouette, parce que du coup, on participe encore plus au fait d'être acteur vraiment de nos produits. En fait. On va les mettre en quelque sorte en scène. Donc je trouve ça vraiment chouette.
Et ça ne vous dérangera pas de nettoyer le sol, de faire la caisse, de couper du fromage?
J'aime bien bousculer dans les habitudes. Et je me dis, non, il faut que je sois prête. Parce qu'ils en ont parlé et je me suis dit, il faut que je sois prête à accepter à le faire, ouais. C'est pas... Faut bien le faire, hein.
Il y en a... Ouais, voilà. Alors, celui de ma sœur.
Tom Bousse, cofondateur de La Louve.
Donc, le projet s'appelle La Louve. Donc, on a voté il y a des années maintenant. C'était entre La Louve et le Moulin. Et... Le Moulin, pour moi, c'était pas possible. Mais heureusement, La Louve a gagné. Donc, La Louve, c'est pas une référence à Rome, ou des choses comme ça, qu'on trouve à peu près tranquille. Mais c'est juste le fait que il y a cette tradition avec les coopératives de consommateurs du 19e siècle. Souvent, ils ont pris le nom des animaux. Donc, on participe à ça. Souvent, c'était des choses comme des abbés, socialistes, etc. Et nous, on aimait bien l'animal de La Louve, à la fois parce qu'elle n'est pas mignonne, c'est pas l'hérisson ou quelque chose comme ça, et elle est féroce un peu. Et on dit que l'impulse de créer les coopératives de consommateurs dans le 19e siècle, c'était l'impulse de se protéger, réellement. Parce que les petits commerçants qui trafiquaient les choses, mettre le plâtre dans la farine, etc. Donc, si on veut quelque chose de bien, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et on est assez féroce avec cette protection. Donc c'est cet impulse-là, c'est un projet pour se protéger, parce qu'on veut que ça soit nous qui détermine ce qu'on mange, et pas des personnes pour lesquelles le but principal, c'est faire de l'argent. Et donc, une louve, c'est à la fois nourricière, mais c'est aussi protectrice. Et selon les personnes dans la louve, on a des personnes qui aiment mieux le côté nourricière et les autres, ils aiment mieux le côté protectrice. Donc,
comment est née l'idée de la louve ?
Très facile. On essaie de reproduire quelque chose qui existe déjà aux États-Unis. Donc, dans ce sens, c'est pas du tout novateur. Il y a un supermarché aux États-Unis qui s'appelle le Park Slope Food Co-op. Et c'est une coopérative alimentaire de notre modèle. On fait la même chose. Et je l'ai découvert. Et tout de suite, comme pour quasiment tout le monde qui rentre, c'est un phénomène, en fait. C'est surtout l'ambiance de ce supermarché qui te frappe en entrant. Parce que c'est extrêmement, c'est blindé. Il y a beaucoup de monde, très énergique, mais c'est cette ambiance qui n'est pas commerciale. Et tout de suite, ça te frappe comme quelque chose juste bizarre. Il y a le commerce dans le sens strict qui se passe, mais absence de marketing. Et aussi le fait que dans ce modèle, tous les gens qui font leurs courses sont aussi les propriétaires du supermarché, qu'ils ont le droit de descendre en sous-sol pour chercher des choses, etc. Ça change totalement l'ambiance, cette ambiance, ce que je parle maintenant, humain. Après, c'est excellent dans le sens où tu découvres, en plus de cette ambiance, il y a la nourriture de haute qualité. C'est comme une épicerie fine. L'équivalent le plus proche ici, ça serait quelque chose, grande épicerie fine comme le Bon Marché, ou Galerie Lafayette, mais un peu plus axé sur le bio et un peu plus axé sur le populaire, bizarrement. Et donc, on a des choses haute qualité et qui sont pas chères de manière hallucinante. Donc, il y a quoi ne pas aimer dans le modèle. Nous sommes ce qu'on appelle un supermarché coopératif et participatif. Et donc, la partie coopérative, ça veut dire que, littéralement, nous sommes quelque chose qui s'appelle une coopérative de consommateurs, qui est une structure qui existe depuis le 19e siècle en France, qui était très florissante après la commune, par exemple. Et c'est tout simple, c'est juste les gens qui utilisent la structure sont les actionnaires, les propriétaires du structure. Donc, pour participer à la louve, on achète des parts. En fait, et voilà. Donc, pour nous, c'est 100 euros. Bon, ou si on est bénéficiaire des minima sociaux, c'est à 10 euros. Et c'est un investissement. Et si on part de la coopérative, par exemple, c'est remboursé, si vous voulez. Et on recherche une coopération plus intime et plus profonde que ça. Et donc, on partage le travail. Et ça veut dire concrètement que les membres qui sont membres de la louve doivent participer au fonctionnement du magasin 3 heures tous les 4 semaines. Donc on vient, on fait la caisse, on fait le nettoyage, on fait un peu d'administration peut-être, le stock, la mise en rayon, quasiment tout, sauf les choses qui nécessitent un suivi très consistant, comme les achats, comme la comptabilité. Et là, on a une équipe salariée réduite pour faire ça.
Vous êtes salarié ?
Non, pas du tout, je suis coopératrice.
Et bénévole ?
Et bénévole, oui, tout à fait.
Et vous travaillez dans le supermarché ?
Aujourd'hui, oui. C'est ma deuxième fois.
Vous faites quoi dans la vie ?
Alors, dans la vie, je suis à la fois dans la production, dans la publicité, et je suis prof de yoga et de running.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers la louve ?
Alors moi, je ne suis pas de Paris, je viens d'un tout petit village campagnard et quand je suis arrivée ici, je ne trouvais pas ce qui me convenait en termes de proposition alimentation. Je suis très respectueuse de l'environnement, je mange biologique, j'aime bien manger local, etc. Et du coup, un jour, j'ai entendu parler de la louve, je suis venue à une réunion d'information et c'était à peu près ce que je cherchais sur une grande ville. Donc j'ai adhéré tout de suite.
Qu'est-ce que vous pensez du principe ?
Alors moi, je trouve ça formidable parce que c'est vraiment tout le monde y gagne, que ce soit le client, que ce soit les personnes qui travaillent, que ce soit les producteurs et évidemment toutes les familles derrière qui vont profiter des bons produits des coopérateurs qui ramènent à la maison tous les soirs.
Votre mission aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors ma mission, c'est de veiller à ce que les rayons ne soient pas vides et à renseigner les personnes qui viennent faire leurs courses dans la mesure du possible, puisque je suis un petit peu néophyte en matière de supermarché. C'est la deuxième fois que je me porte volontaire pour travailler dans l'épicerie.
Et donc l'effet de tout ça, c'est le premier effet, c'est cette chose assez libérateur que c'est à nous, c'est réellement à nous. Il n'y a pas un « eux » dans ce projet. C'est le supermarché, c'est à nous. Et c'est la création de cette ambiance. Mais aussi parce qu'on a réduit, peut-être par 80%, le main-d'œuvre payée. Ça réduit les prix. Et donc, à la coopérative à New York, par exemple, c'est entre un panier typique, c'est entre 20 et 40% moins cher. Et quand on ouvre, ça serait peut-être légèrement inférieur à ça, mais dans le même univers. Et donc, voilà.
Il y a combien de membres aujourd'hui à la Louve ?
Actuellement, on est à 2250. On avait pour but d'ouvrir avec 1922. Ça, c'est notre business plan qui disait qu'il fallait ça pour réussir. Et donc, moi, je crois qu'à l'ouverture, on serait autour de 3000, quelque chose comme ça. Et certaines personnes vont tout de suite, ils vont découvrir que ce n'est pas un projet pour eux, etc. Donc, peut-être on dit que quelques centaines de personnes vont partir. Mais donc, confortablement, on va peut-être ouvrir à 2500, quelque chose comme ça.
Outre son activité de ressourcerie, la petite Roquette a ouvert son restaurant, La Troquette. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à La Petite Roquette ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites ?
Donc on fait la cuisine à base de produits invendus dans les épiceries du coin. Donc on récupère tout ça et tous les jours on cuisine quelque chose de différent.
Combien coûte un repas ?
10 euros, plat, dessert, café. En sachant que le plat, il peut y avoir deux petites entrées, trois plats. Le plat peut être composé de sacs aussi, petites choses diverses. Ou on peut choisir un seul plat. Donc il y a vraiment la liberté du choix. Et après les desserts, il y a un ou deux desserts aussi à choisir.
On va voir où elle en est. Tu veux la goûter ?
Delphine Terlizzi, responsable de la ressourcerie La Petite Roquette.
L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas cuisiner à 80% de réemploi, 20% de choses achetées, et arriver à faire aussi, enfin, d'éviter le gaspillage alimentaire et de faire passer ce message aussi aux clients qui viennent manger. Donc ça marche plutôt bien, hein, ça fait qu'un mois que le restaurant est vraiment en place. C'est plutôt convaincant, puisque là, on a gagné, et je donne les chiffres, 1500 euros pour 180 euros de dépenses. Donc on peut quand même se dire qu'avec du réemploi et de la récup, on arrive aussi à faire à manger pour entre 10 et 15 personnes par jour. Voilà, plus les bénévoles qui mangent, donc ça fait une bonne vingtaine de personnes.
Est-ce qu'il est nécessaire pour l'économie sociale et solidaire d'être viable économiquement ?
Oui, on parle d'économie quand même, dans le mot économie sociale et solidaire, il y a une économie, ça me paraît indispensable. Le modèle économique d'une ressourcerie, il est pas facile à trouver, mais en même temps on a la chance d'avoir une boutique, donc ce qui permet quand même d'avoir une entrée d'argent, ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets d'économie sociale et solidaire. Je pense qu'un vrai projet d'économie sociale et solidaire ne peut pas se passer de fonds propres et doit avoir un modèle économique fiable. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Pour les personnes qui travaillent, pour la stabilité des gens, pour les salariés... En poste, ça me paraît être indispensable de réfléchir tous ensemble à comment s'améliorer. Nous, on a un problème cette année, enfin 2017 va se poser un vrai problème économique. On bénéficie de contrats aidés, par exemple, qui évidemment, nous, on a une politique de recrutement qui est d'aller chercher des gens très éloignés de l'emploi, mais pas que. Mais du coup, ces gens, ils bénéficient d'un contrat aidé pendant 2 ans. Mais qu'est-ce qui se passe au bout des 2 ans ? Nous, on n'a pas envie que ces gens qui se sont professionnalisés, qui sont rentrés dans une vie sociale beaucoup plus stable, qui ont parfois, et la plupart, récupéré un logement, renoué avec leur famille, on n'a pas envie qu'ils s'en aillent. Donc on a envie que de pérenniser les postes. Ça fait partie des objectifs de la ressourcerie, de la petite requête. Et du coup, on fait comment quand on n'a plus d'aide? On est obligé, nous, d'augmenter notre chiffre d'affaires ou de trouver des solutions. Donc c'est ça, on jongle un peu avec ça. Et en 2017, va se poser la question de « Ah bah tous ces gens-là n'ont plus de contrat aidé, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on jongle, voilà, on jongle, on fait que ça, jongler. Mais on tient à avoir un modèle économique fiable, donc on y arrive. Hein. Mais voilà, après on se dit « Bon bah ça fait 2 ans que t'es là, il faut trouver toi des solutions pour qu'on améliore aussi économiquement notre fonctionnement. » Pas le choix.
Là, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu. Parce que si on regarde la réalité de l'économie et qu'on arrête de la regarder à travers des lunettes qui nous ont été mises sur le nez, on constate que qu'est-ce qui est vraiment beaucoup aidé? C'est pas l'économie sociale et solidaire, c'est les banques.
Jean-Louis Laville.
2008, on a trouvé des centaines de milliards, alors que n'importe quelle petite initiative avant, 5 minutes avant cette crise, devait se justifier pour avoir quelques milliers d'euros. L'économie qui est vraiment subventionnée, c'est l'agriculture productiviste, hein, qui à 80% est financée par les contribuables. Les secteurs d'activité, quand on regarde ce qui se passe au niveau régional, qui se présentent comme les plus performants, sont souvent ceux qui bénéficient avant tout des aides publiques régionales. Donc je crois qu'on nous a raconté une histoire, hein, sur l'économie compétitive et performante et sur le fait que l'économie sociale et solidaire serait une économie assistée. On nous a raconté une histoire sur la concurrence déloyale que ferait peser l'économie sociale et solidaire sur la vraie économie. Je crois qu'il convient d'interroger ce récit, hein, parce que quand on regarde la réalité de l'économie, très souvent ce récit s'éloigne de la vérité pour aller vers une construction qui effectivement est constante. Et ça, on le voit bien dans un certain argumentaire du patronat, c'est que c'est insupportable d'entendre qu'aujourd'hui, par exemple dans la décennie 2000-2010, les associations ont créé plus d'emplois que les entreprises privées. Donc il y a tout un discours qui s'est construit dans tout le XXe siècle comme quoi la seule économie qui était vraiment performante, c'était le capitalisme marchand. Or, la réalité, elle est beaucoup plus, là encore, diverse que cela. C'est-à-dire que toutes les formes d'économie bénéficient de financement public, quand on regarde les choses un peu en profondeur. Mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que on doit investir de l'argent public pour produire des armes? Est-ce qu'on doit l'investir pour produire de l'agriculture écologique? Ce sont des choix. Hein. Mais je ne crois pas qu'on puisse laisser l'idée selon laquelle il y aurait une économie qui serait florissante sans aide publique et à côté une économie qui n'arriverait pas à s'en sortir si elle n'avait pas les aides publiques. Il y a un continuum et je pense que ce qui est la question que nous pouvons poser en tant que citoyens, c'est où va l'argent public pour aider quel type d'économie, mais pas considérer qu'il n'y aurait que l'économie sociale et solidaire qui bénéficierait de financements indus. Bien au contraire, le financement dont bénéficie l'économie sociale et solidaire est tout à fait restreint par rapport à d'autres formes d'économie.
C'était l'entrepreneuriat social, Power to the People. Attaché de production, Christine Bernard. Prise de son, Thomas Robin, Loïc Duros, Georges Thau, Philippe Etienne et Patrice Klein. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire de Patrick Boudet. Man, I need this job more than you know, but he gave me my last breath.
Well, I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Said I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. And I need dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. Sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child.
LSD, la série documentaire, c'est tout neuf, mais c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier. Et si vous en voulez encore, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour plus tard ou nous réécouter pour toujours, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et demain, troisième épisode, on va parler d'argent. Faut-il avoir peur du profit ? Le nerf de la guerre.